l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des territoires du monde et de la solidarité internationale.
Bonjour à tous, et eh bien merci de nous rejoindre encore aujourd'hui, cette semaine. Et donc ce jour-là, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Ripstein, qui est bénévole à la CIMAD. Alors vous doutez bien qu'en ce moment, c'est pas du luxe que de recevoir quelqu'un comme ça, dont la vocation c'est de s'occuper des personnes en difficulté, migrantes, etc. Et vu tout ce qui se profile en ce moment au niveau des lois, au niveau de l'actualité, au niveau de tout ça, je pense que ce sera pas du luxe que Monsieur Ripstein, que Pierre nous explique un petit peu tout ça. Alors ce que je vais vous... Bonjour Pierre d'abord.
Bonjour.
Ce que je vais vous demander en premier temps, c'est de nous rappeler un petit... Il y a des gens sûrement qui connaissent, et puis il y en a d'autres non. Et puis comme je vous disais tout à l'heure, je pense que quelquefois, une petite piqûre de rappel, c'est pas si mal. Nous rappeler un peu qu'est-ce que c'est que la CIMAD.
La CIMAD, c'est une association qui a été créée au moment de la guerre pour s'occuper donc des déplacements et en particulier donc des juifs qui avaient été attaqués pendant toute la guerre et donc qui s'est créée à ce moment-là et qui aujourd'hui rassemble environ 2500 bénévoles et plus d'une centaine de salariés pour accompagner toutes les personnes réfugiées et migrantes dans leurs papiers, dans leurs besoins en termes d'administration, de droits surtout, de les défendre par rapport à leurs droits.
Oui, alors, simplement, c'est vrai que j'ai eu la curiosité de regarder un petit peu. Alors, c'est vrai que la CIMAD, c'est né en 1939, j'ai vu. Et c'est né, c'était justement, c'est pour rappeler aussi que l'immigration, c'est pas simplement des gens du Sud. Et à l'époque, c'était justement pour s'occuper des personnes déplacées, des populations déplacées en Alsace et Lorraine. Et quand on sait que ces populations-là ont vécu des heures très difficiles durant quand même plusieurs années. Donc c'est né là, à ce moment-là, c'est ça?
Tout à fait, c'est né au moment de la guerre par un certain nombre de gens qui se sont rassemblés pour aider les populations et par rapport à cette notion de migration et d'exil. Et donc, c'est pas,
oui,
vous avez tout à fait raison, n'est pas spécifique à des pays du Sud pauvres et ça peut être au moment de guerre, par exemple.
Voilà, et disons que ça s'est adapté puisque maintenant, les populations, l'immigration évoluent, changent et malheureusement, actuellement, elles sont quand même très compliquées, très douloureuses, très difficiles. Et donc, quand vous dites, vous êtes, je ne sais pas combien de bénévoles, vous êtes nombreux, c'est sur toute la France.
On est une centaine de groupes locaux, donc une centaine de groupes qui sont présents dans des villes et c'est donc 2500 environ bénévoles qui sont...
D'accord, ok, une centaine de groupes locaux, d'accord. Donc ici, nous sommes sur l'Hérault.
Voilà, c'est le groupe local donc de Montpellier. Il y a 8 groupes locaux dans une région qui on est géré en termes de groupe local d'une ville, de région. Et là, c'est la région Languedoc-Roussillon où on a 8 groupes locaux de Perpignan, à Nîmes, Alès, Carcassonne, Narbonne par exemple et Béziers.
Et donc, je lisais également je pense que évidemment vous êtes concerné directement, il y aurait en France entre 600 000 et 900 000 clandestins. Et je pense que, évidemment, j'espère qu'il y en a qui arrivent à venir vous consulter pour que vous les aidiez à ne plus l'être ou en tout cas ou ne pas le devenir, non?
On n'emploie pas trop le terme de clandestin,
oui,
mais on a effectivement
une
statistique qui doit dépasser les 600 000 personnes en situation irrégulière.
Oui,
que veut dire une situation irrégulière? Ça veut dire qu'on n'a pas les papiers adaptés à un instant donné par rapport à son statut. On n'a pas ou le visa ou le titre de séjour qui permet de rester sur le territoire français. Donc, c'est 600 000 ou plus personnes irrégulières, sachant qu'on a à peu près, je crois, 300 et quelques mille personnes qui arrivent chaque année, mais presque la moitié d'entre ces personnes sont les étudiants qui viennent pour faire des études, par exemple. Donc,
oui,
catégorie à part des...
Tout à fait, mais qui peuvent aussi se retrouver à un certain moment en délicatesse.
Tout à fait se retrouver,
surtout en ce moment.
sans les papiers adaptés à l'instant donné par rapport à leur situation.
Tout à fait. Donc, voilà. Alors, ce qui est intéressant, justement, vous voyez, dans notre échange, c'est qu'en fait, comme vous dites, on a beaucoup évolué. On est passé du terme de clandestin, parce que c'était quand même des termes assez triviaux à l'époque. On n'était pas tout à fait dans la nuance et dans la délicatesse. Mais peut-être que c'était aussi moins, je ne sais pas. En tout cas, moins sensible ou moins douloureux, etc. Et voilà, quand vous dites maintenant, ce sont des personnes qui, effectivement, ont des démarches à faire ou ont la possibilité de faire des démarches. Voilà, et on en a parlé récemment, je vous le disais, dans notre Gazette Africa. Qui est organisé avec l'émission l'Afrique dans tous ses états, où nous avons eu des témoignages de migrants et témoignages d'une bénévole aussi de la CIMAD, et où on a entendu des récits, effectivement, ce que vous devez vous-même souvent entendre, qui sont quand même assez douloureux, assez compliqués, assez évocateurs justement de pourquoi c'est essentiel qu'un organisme tel la CIMAD puisse être là et puisse effectivement épauler les gens. Alors, je suppose quand même qu'actuellement, est-ce que vous sentez, vu la proximité, enfin, tous les débats qui ont eu lieu sur la loi qui est passée, enfin, avec les différentes tensions autour de cette loi, avec des volontés soit d'assouplir, soit au contraire de rendre plus rigide, est-ce que vous le sentez, vous, dans la population qui vient vous voir, est-ce que pour vous, ça a modifié les choses un peu ?
Alors, la population qui vient nous voir, elle est excessivement variée. Hein. Donc, on a des gens qui viennent puisqu'ils sont, par exemple, demandeurs d'asile. Donc, ils sont en cours de la procédure pour obtenir le statut de réfugié ou la protection internationale en situation. On a aussi des gens qui, tout simplement, étaient avec un titre de séjour et qui arrivent au terme de ce titre de séjour et n'arrivent pas à le renouveler puisque les rendez-vous à la préfecture sont compliqué. Et donc ces gens entendent une partie donc de ce débat qu'il y a eu sur la loi immigration qui s'appelle immigration et intégration, et c'est surtout loi immigration, ils ont une partie, une inquiétude, ils ont aussi parfois entendu qu'un tout petit morceau de la loi et ils pensent que la partie intégration va les concerner et par exemple sur la question de l'emploi, les métiers en tension dont on a beaucoup parlé dans la loi, qui était la possibilité éventuellement d'obtenir un titre de séjour puisqu'on est dans un métier en tension. Et les métiers en tension, on en connaît, c'est un des métiers où il y a beaucoup de main-d'œuvre. Donc ils espèrent obtenir un titre de séjour à ce titre-là. Ce qui ne sera pas du tout évident d'après les termes de la loi tels qu'ils ont été adoptés par le Parlement.
Oui, donc évidemment, votre réponse, c'est que ça complique quand même les choses et que du coup, votre mission va peut-être être encore plus en tension, non ?
Est-ce que la mission sera en plus en tension ? C'est pas nous qui sommes en tension, c'est vraiment les personnes qui sont concernées. Mais notre mission sera peut-être plus, enfin, se complique et devient de plus en plus en partie administrative, puisque on pourra en parler un moment, mais la dématérialisation, tout se fait maintenant de plus en plus en termes numériques et de moins en moins en rencontrant une personne face à face. Donc ça, c'est vraiment un vrai souci quelque part. Et par ailleurs, dans la loi immigration-intégration, il y a effectivement beaucoup de difficultés qui sont rajoutées aux migrants ou aux personnes étrangères sur le territoire français, puisque c'est pas que des migrants, c'est des gens qui ont des titres de séjour et qui éventuellement vont se retrouver demain en difficulté alors qu'aujourd'hui ils étaient en situation tout à fait régulière, puisqu'on va leur demander des compléments de papier, des compléments de formalité à accomplir.
Donc évidemment, ça va compliquer les choses et ça va faire des ruptures quelquefois effectivement dans les conditions de vie, dans la projection de la personne qui a à un moment trouvé un emploi ou était sur une voie qui semble se dessiner et tout à coup il va y avoir ces espèces d'explosions là de rupture avec les textes.
Tout à fait. Par exemple, je sais pas, il y a un petit endroit dans la loi où ils disent qu'on n'a pas le droit de renouveler plus de 3 fois un titre de séjour sur un cas particulier dans les titres de séjour annuels. Et donc, un parent d'enfant français, par exemple, qui n'arriverait pas à obtenir son titre pluriannuel, au bout de 3 fois, ça ne pourrait pas se renouveler. Ou il y a un certain nombre de titres de séjour qui peuvent être remis en question alors que la personne était vraiment en situation régulière avant.
D'accord. Donc, c'est vraiment, ça, comme on voit, c'est... Alors, vous évoquiez tout à l'heure aussi les difficultés, les complexifications des démarches qu'ils ont, où on a de moins en moins d'interlocuteurs. Effectivement, c'est un peu général, mais on va se dire que peut-être là, en plus pour des personnes qui, quelquefois, maîtrisent moins bien la langue ou en tout cas, sont moins familières avec nos usages ou nos expressions, etc. Et l'autre jour, justement, on en parlait avec une collègue à vous, et c'est vrai que, par exemple, pour la préfecture, je ne sais pas si vous êtes au courant, j'ai entendu dire l'autre jour pour une amie nigérienne qui est ici en ce moment, qui est en train de se soigner d'un cancer, et qui donc, on l'a compris, a besoin, selon les examens, selon les résultats, va peut-être pas pouvoir partir quand on l'aura décidé pour elle. Il faudrait, je crois que c'est la nuit, quelquefois, qu'il faut appeler la préfecture pour avoir un rendez-vous. Vous êtes au courant de cette histoire-là ?
Donc il ne faut pas... appeler la nuit, mais il faut essayer sur Internet pour les personnes en situation irrégulière. Oui. Il y avait la possibilité de demander un rendez-vous à la préfecture une fois que le dossier était prêt pour essayer de se faire régulariser. Et cette demande sur Internet devait se faire à minuit le dimanche soir.
Voilà, c'est ça.
Et donc, puisqu'il y a moins de 30 rendez-vous à la préfecture de l'Hérault, à Montpellier, par semaine. Et donc, chaque semaine, il fallait essayer d'avoir ce rendez-vous-là, et donc à minuit dimanche soir. Donc c'était quasi impossible, hein, puisque les rendez-vous étaient presque tout de suite pris d'assaut.
Oui.
Et donc, il y avait la possibilité, ce qui est un peu fou, auprès d'une préfecture de l'État français, la possibilité d'acheter ces rendez-vous à certains endroits de Montpellier. On pouvait acheter le rendez-vous à des prix de plusieurs centaines d'euros parfois, pour avoir un rendez-vous à la préfecture, ce qui est strictement anormal, mais cela fonctionne et beaucoup de gens nous en ont témoigné.
Alors vous voyez, quelquefois, quand on parle, tout le monde sait que je m'occupe beaucoup de l'Afrique et que j'y vais depuis très longtemps, et c'est vrai que quand on en parle comme ça, on vous dit, par exemple, je ne sais plus dans quel pays c'était, au Cameroun, je crois, à un moment, on s'est rendu compte qu'il y avait un bureau, par exemple, qui fabriquait des faux visas. Et il y a des milliers de personnes qui sont parties avec des faux visas achetés en bonne et due forme, etc. On se dit, ça c'est les Africains, etc., etc. Mais quand vous racontez quelque chose comme ça ici, c'est quand même un peu hallucinant, un peu fou, quoi.
Ça fonctionne encore aujourd'hui.
Et ça fonctionne
aujourd'hui. Encore aujourd'hui, des rendez-vous à la préfecture qui sont obtenus de manière tout à fait anormale, donc en les achetant. Une fois
À qui on achète ça ?
À quelqu'un dans la rue, dans des endroits, dans certains endroits, je ne l'ai jamais fait moi-même, mais on peut. J'ai plusieurs des personnes qui sont venues nous voir, qui nous ont dit qu'ils avaient acheté un rendez-vous et qu'ils avaient obtenu le rendez-vous à la préfecture en ayant payé 100, 200, 300 euros à quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas spécialement, mais par personne interposée, ils avaient réussi à obtenir ce contact.
Alors, pour parler justement des migrants, on va les appeler comme ça, vous vous rendez compte, quand vous nous expliquez ça, regardez, déjà, ils sont obligés de quelquefois, les familles s'endettent, etc., pour leur payer un passage, avec des marchands de passage, des marchands de sommeil, des marchands de tout ce que vous voulez. Et en plus, vous m'expliquez qu'ici, en France, où on est censé être une démocratie, et une démocratie vraiment et laïque, et quand même complètement administrée, vous nous expliquez quand même qu'il y a des faux papiers comme ça qui circulent et qui sont payants et qui donc permettent... Oui.
Ce ne sont pas des faux papiers. Hein.
C'est, non,
en
d'accord.
fait, je pense que le système, je n'ai pas une explication complète, mais je pense que le système, c'est qu'il y a des gens assez malins qui, sur Internet, ont des moteurs de recherche qui vont chercher à prendre le rendez-vous en permanence.
Tout à fait, voilà.
Et qui vont l'obtenir, ça sera un vrai rendez-vous, avec tout à fait au nom de la personne qui l'a demandé. Mais donc, ce n'est pas un faux.
Non, ce n'est pas un faux.
C'est une procédure strictement anormale, puisque ce rendez-vous devrait être gratuit et finalement, va le payer. Donc, ce n'est pas honnête, tout à fait.
Donc, il faut prévenir aussi les gens. Alors, écoutez, c'est très intéressant et puis c'est vraiment en tension pour moi parce que je trouve que, on se sent concerné par tout ce qui se passe actuellement. Et donc, je propose qu'on fasse une petite pause musicale d'un morceau que vous avez choisi, vous nous le présentez ?
Oui, j'ai pensé à l'affiche rouge sur un poème d'Aragon chanté par Léo Ferré, qui, puisque c'est par rapport à l'hommage pour Manoukian et pour
actuellement,
qui est prévu actuellement.
Voilà, l'affiche rouge, à tout à l'heure.
Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue. ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. » Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard en arrivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, ô mon amour. Mon orpheline, et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers, nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant.
Voilà, nous sommes de retour après cette affiche rouge qui nous a bien mis un peu le cœur en révolution, parce que ça fait appel, effectivement, ça réveille des souvenirs douloureux. Et puis Léo Ferré, quand même, c'est pas rien, avec Aragon, ça fait un bon duo, quoi. Et je vous retrouve, je suis toujours donc avec Pierre Ripstein, qui est bénévole à la CIMAD. Nous avons évoqué l'historique, hein, c'est une initiative ancienne, la CIMAD, qui était née pour à ce moment-là des migrations, on appelait ça des déplacés d'Alsace et de Lorraine, vous voyez, donc ça part d'ici, de notre cœur, de la France. Et puis on voit bien maintenant l'extension que tout ça, ça a eu. Avec toutes ces personnes qui sont en difficulté et ce monde qui va vraiment pas si bien que ça. Donc Pierre, vous avez parlé un petit peu en général, et là, tout à l'heure, vous avez parlé aussi, vous dites qu'effectivement vous vous entourez de gens compétents, et notamment des juristes. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu à qui vous faites appel pour gérer les dossiers, etc., etc., comment ça se passe ?
En pratique, on a des permanences. On a des permanences toutes les semaines. On a une permanence qui concerne l'accueil juridique, donc toutes les questions de droit auxquelles font face les étrangers sur le territoire français. Et donc cette permanence, c'est le jeudi matin à 9h dans les locaux du Carrousel, ici, pour l'instant.
Donc il faut donner l'adresse
C'est 9 Cours Gambetta.
9 Cours Gambetta, au début du Cours Gambetta.
Neuf Cours Gambetta, on y est pour l'instant, jusqu'à l'été prochain. Et donc, dans ces permanences juridiques, donc là, c'est sans rendez-vous. On vient à 9h du matin, le jeudi matin, pendant toute l'année, sauf pendant l'été. Et donc là, on va être reçu, en général, par deux personnes qui ont des connaissances sur le droit et lorsque donc qui vont aider dans les démarches par rapport au droit de la personne migrante. Donc ça, c'est pour ce qu'on appelle l'accueil juridique. Le mardi, nous recevons, mardi après-midi, au même endroit, au Carrousel, toujours 9 Cours Gambetta, toute l'après-midi, donc, nous recevons des gens qui, eux, sont demandeurs d'asile. L'asile, c'est un statut particulier, reconnu au niveau européen, donc par tous les États de l'Europe, qui permet, lorsque l'on est persécuté dans son État, dans son pays, pour des raisons religieuses, politiques, raciales, de groupe social, d'orientation sexuelle ou autre, on est donc persécuté dans son pays, on fuit son pays, on peut demander l'asile en France et obtenir le statut de réfugié, et donc nous, le mardi après-midi, nous recevons ces gens et nous les aidons dans la démarche pour leur expliquer quelle démarche ils doivent faire, comment on peut les accompagner pour bien mettre en forme leur récit et expliquer donc à l'organisme qui va les recevoir dans leur demande d'asile qui s'appelle l'OFPRA, l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides. Nous aidons aussi lorsqu'il y a, par exemple, pour des personnes qui obtiennent ce statut de réfugié, il y en a quand même plus de 30 000 en France chaque année, nous les aidons dans les réunifications familiales, c'est-à-dire pouvoir faire venir leur famille. Et donc ça, non seulement on a une permanence d'accueil le mardi après-midi, mais on a aussi un numéro de téléphone où les gens peuvent appeler pour prendre rendez-vous, puisqu'on préfère qu'ils prennent rendez-vous à l'avance pour avoir un rendez-vous du mardi. Et donc, je peux même donner, si vous le permettez, le téléphone.
Au contraire,
Sous les yeux, là. C'est le 06 45 59 17 13. Donc, entre 10h et midi, du lundi au vendredi, on peut donner des informations et donner des rendez-vous pour venir pour les personnes qui sont en demande d'asile. Voilà, donc on a... d'une part, accueil juridique, d'autre part, demande d'asile. Donc, deux groupes, le mardi après-midi, l'asile, le jeudi matin, l'accueil juridique. Et par ailleurs, la CIMAD est associée à deux autres structures, deux autres associations. D'une part, un réseau qui s'appelle Réseau Éducation Sans Frontières, qui s'occupe plutôt des jeunes sur les problèmes d'éducation ou de travail en début de carrière ou autre pour des jeunes étrangers. Et puis, les ABP, les Amoureux au Banc Public, qui s'occupent là de questions de droit et de... plus ou moins administrative, pour les couples franco-étrangers ou européens étrangers qui ont des problèmes donc de nationalité, de titre de séjour ou autre.
Donc ça fait quand même deux recours.
Donc on est deux réunions, deux permanences CIMAD et une permanence RESF le mercredi après-midi, une permanence des Amoureux au Banc Public le jeudi après-midi.
Alors c'est vrai que RESF, moi je les ai connus en Afrique, parce qu'ils œuvrent aussi là-bas sur place, dans les pays aussi, donc ils sont doublement compétents. Les Amoureux du Banc Public, il n'y a pas longtemps qu'on en a parlé, je pense qu'on va demander à ce qu'ils viennent nous rencontrer pour nous expliquer aussi comme RESF. Donc quand même, il y a, alors c'est important, hein, c'est important de diffuser, du coup c'est important aussi de donner ce numéro de téléphone, et c'est important de faire savoir autour de soi que quand même, même quand on se sent très seul et qu'on est un peu désespéré, on a des recours. Et moi, justement, un petit témoignage personnel, c'est qu'il y a 2 ans, j'avais rencontré un jeune Guinéen qui travaillait à la télévision. Et la Guinée, c'est un pays dont on ne parle pas, mais c'est assez horrible aussi ce qui se passe. Et il avait été emprisonné parce qu'il avait, je pense, osé filmer, commenter, je ne sais pas quoi, quelque chose d'interdit. Et du coup, il était réfugié et il faisait les démarches justement pour pouvoir être accueilli, enfin, voilà, réfugié. Réfugié. Et c'est une de vos collègues donc, qui a, je lui présentais à la radio, et c'est elle qui l'a boosté, en fait, qui lui a bien expliqué. Il devait y aller, c'était un vendredi, je crois, et il devait y aller le lundi qui suivait, et c'est elle qui l'a bien expliqué comment c'était important, sur quoi il devait insister, etc. Et je pense que ça l'a aidé, parce que contrairement à ce qu'on nous a dit, c'est très peu, il y a très peu de droits d'asile qui sont accordés, et lui, il l'a eu. Donc là, actuellement, il est en train de travailler pour faire venir sa petite famille, justement. Et il est hors de question qu'ils retournent là-bas. D'ailleurs, ils ont eu des preuves, hein. Ils ont été menacés, sa famille, etc. Voilà, pour dire l'importance quand même d'avoir, de vous avoir à ses côtés quand on est dans une souffrance, une difficulté, et surtout quand on est complètement perdu, quoi.
C'est, oui, quand vous dites il y a très peu de droits d'asile, effectivement, on est de l'ordre de 20 à 30%.
Oui, c'est ce qu'on m'avait dit, oui.
20 à 30% des demandeurs d'asile qui finalement obtiennent cette protection internationale qui est quand même très importante, puisque dans leur pays, ils ne peuvent pas retourner dans leur pays. Oui. Et quand vous parlez de la Guinée, en fait, on a en ce moment, mais depuis un certain temps, on reçoit pas mal de Guinéens. Hein. C'est l'Afghanistan qui est le pays qui fournit le plus actuellement de migrants, oui, que l'on voit passer, oui, nous, dans notre permanence. Mais la Guinée est un des pays aussi où il y a beaucoup de jeunes qui ont traversé la Méditerranée. Là, en ce moment, on voit beaucoup de jeunes qui sont arrivés l'été dernier ou à la fin de l'été dernier par Lampedusa, dont on entend beaucoup parler, et qui viennent ici et qui sont demandeurs d'asile ici et qui ont des grosses difficultés puisqu'ils ne sont souvent pas hébergés, contrairement à ce que le statut de demandeur d'asile devrait être accompagné d'un hébergement. Mais les situations d'hébergement à Montpellier sont catastrophiques. Et donc, beaucoup de ces demandeurs d'asile ne sont pas hébergés.
Oui, c'est d'autant plus déplorable, lamentable, que quand même, Montpellier, c'est quand même normalement une ville de tradition d'asile, d'accueil. Hein. Ça a toujours, historiquement, c'est son histoire, c'est notre histoire ici. Et c'est d'autant plus terrible, quoi, de savoir qu'il y a si peu de possibilités d'hébergement. Alors, vous voyez, par exemple, voilà, on parlait de la Guinée, du coup, on en parle, vous en parlez. Vous parlez de l'Afghanistan, et regardez comment c'est des pays où il n'y a pas une actualité aussi fournie, aussi... L'autre jour, quelqu'un me disait « Ah, mais la Guinée, qu'est-ce qui se passe ?» Ben oui, il y a plein de gens qui ne savent pas que le régime actuel là-bas, il est quand même assez, assez terrible. Voilà, l'Afghanistan, on l'a su, mais on a un peu oublié, quoi. Donc c'est bien d'avoir des organismes comme vous qui font quand même, qui nous rappellent un petit peu nos devoirs humains, hein, aussi.
On rappelle nos devoirs, et surtout on essaye de faire valoir les droits des personnes étrangères. C'est surtout ça, c'est qu'ils ont des droits et il faut qu'ils essayent de les, enfin, qu'ils soient assumés le plus possible dans leurs droits, ce qui n'est pas du tout facile et qui nécessite souvent d'être accompagné.
Surtout qu'on en parlait tout à l'heure un peu off, là, dans les administrations, les personnes ne sont pas forcément très bien, très au courant, et c'est souvent, heureusement, des gens comme vous, ou après des migrants qui commencent à avoir une culture un peu de leurs difficultés, qui sont peut-être plus à l'écoute des lois qui existent. Il semblerait que par moment l'accueil soit assez déficient au niveau des administrations qui pourtant sont dédiées à ça, à cette mission.
C'est sûr que les administrations ne connaissent pas toujours toutes les... Bon, les textes sont pas évidents non plus à connaître, mais oui. Les administrations ont parfois tendance à rejeter la personne alors que sa demande est tout à fait légitime, et donc ils ont besoin d'aide, et donc c'est là qu'on peut effectivement intervenir pour accompagner et aider le plus possible. Ce que je voulais juste dire, c'est qu'on n'hésite pas, nous, à faire appel aussi aux avocats lorsque la situation nécessite de faire un appel aux avocats. Et on est capable d'orienter les personnes en demande vers des avocats qui ont l'habitude de travailler sur le droit des étrangers, est un droit compliqué.
Tout à fait. Donc, l'activité est dédiée à ça. Ben, écoutez, je pense que c'est important. Alors, c'est peut-être important que vous rappeliez tout ce que nous avons dit, mais c'est une redite, mais c'est plutôt pas inutile. Donc, les gens qui sont en difficulté ou qui connaissent des personnes en difficulté peuvent venir. Donc, Allez, vous nous rappelez tout.
Donc,
à la CIMADE.
La CIMADE est hébergée au 9 cours Gambetta, donc dans un local qui s'appelle le Carousel. Vous pouvez venir le mardi après-midi, on a une permanence sur l'asile. Le jeudi matin, on a une permanence sur l'accueil juridique. Il y a un numéro de téléphone, j'ai donné le numéro de téléphone, je ne vais en donner qu'un seul. C'est le numéro de l'asile qui fonctionne tout, du lundi au vendredi de 10h à midi, et c'est le 06 45 59 17 13. Si vous avez une demande par rapport au statut de réfugié ou par rapport à l'asile en règle générale, et on peut vous indiquer, et éventuellement vous pouvez passer au carrousel le matin plus tôt, on essaiera de vous orienter par rapport à votre demande.
Voilà, merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. Merci à la technique. Et voilà, et puis vous pouvez soit écouter, bon, si vous ne avez pas écouté en direct, on peut nous réécouter le soir à 18h, je crois que c'est. Et puis sinon, vous mettez Radio FM+, le site de la radio, et vous avez les podcasts et vous regardez les échos de la solidarité internationale. Merci à FM+ de nous héberger et merci à tous. Merci Pierre encore.